Chapitre 7. Le filtre. Une litière légère, portée par deux mules à la tête desquelles couraient des valets, pénétra dans la grande cour de l'hôtel d'Artois, rue Mauconseil. Béatrice d'Irson, nièce du chancelier d'Artois et demoiselle de parage de la comtesse Mao, en descendit. Nul n'aurait pu penser que cette belle fille brune venait de parcourir près de 40 lieues en 2 jours. Sa robe était à peine fripée, son visage était lisse et frais comme au sortir du sommeil. D'ailleurs, elle avait dormi une partie de la route sous de bonnes couvertures au balancement de la litière. La poitrine haute, la jambe longue, avançant d'un pas qui paraissait lent parce qu'il était allongé et toujours égal, elle se rendit directement auprès de sa maîtresse. La comtesse était attablée devant son second repas qu'elle prenait vers tierce. C'est fait, madame, dit Béatrice en tendant à la comtesse une minuscule boîte de cornes. Comment va ma fille Jeanne ? D'une voix traînante, nasale et toujours vaguement ironique, même quand il n'y avait aucun motif à ironiser, la demoiselle de parage répondit, marquant des pauses inattendues. La comtesse de Poitiers va bien, madame. Aussi bien qu'il se peut. Le séjour de Dourdan ne lui est point trop pénible. Elle a mis de son côté les gardiens. Elle a le teint clair et n'a que peu maigri. Elle est soutenue par l'espérance et le soin que vous prenez d'elle.
Ses cheveux ? Demanda la comtesse.
Ce sont des cheveux d'un an, madame. Pas aussi longs encore que des cheveux d'homme, mais ils semblent pousser plus dru qu'ils n'étaient avant.
Enfin, est-elle présentable ?
Avec une guimpe autour du visage, assurément. Et puis, elle peut s'orner de fausses nattes.
Les faux cheveux ne se gardent pas au lit, dit Mao.
Elle avala par grande cuillerée la fin d'un potage au pois et au lard, et, pour s'alléger le palais, but un gobelet de vin d'Arbois. Puis elle ouvrit la boîte de cornes, considéra la poudre grise qui en formait le contenu.
« Combien cela me coûte-t-il »«
22 livres. Peste. Les magiciennes font bien payer leur science. Elles risquent gros.
Combien là-dessus as-tu gardé pour toi ?»«
Presque rien, madame. Juste de quoi m'acheter cette robe d'écarlate que vous m'aviez promise et que vous ne m'avez point donnée. »
La comtesse Mao ne put s'empêcher de sourire. Cette fille savait comment la prendre.
« Tu dois avoir le ventre creux. Goûte un peu à ce pâté de canard. » dit-elle en se servant à elle-même une épaisse tranche. Puis, revenant à la boîte de cornes, elle ajouta « Je crois à la vertu des poisons pour se débarrasser d'un ennemi, mais guère au filtre pour se gagner un adversaire. Ce sont tes idées, pas les miennes.
Et pourtant, je vous assure, madame, qu'il faut y croire, » répondit Béatrice.
« Celui-ci est fort bon. Il n'est pas fait à la cervelle de mouton, mais seulement aux herbes et préparé devant moi. » Je suis donc allé à Dourdan et j'ai tiré un peu de sang du bras droit de Madame Jeanne. Puis j'ai porté ce sang à la personne que je vous ai dit, Isabelle de Ferrienne, qui l'a mélangé avec de la verveine, de l'amourette, de la livèche. Et cette Ferrienne a prononcé la formule de conjuration. Elle a déposé le mélange sur une brique neuve et l'a brûlé avec du bois de frêne pour obtenir la poudre que je vous apporte. Il n'est plus maintenant qu'à mettre cette poudre dans une boisson, la faire avaler au comte de Poitiers, et avant peu, vous le verrez repris d'amour pour son épouse, avec une force que rien ne pourrait entraver. Doit-il toujours venir vous visiter ce matin ?
Je l'attends. Il est rentré de l'ost hier soir et je l'ai prié de passer me voir.
Alors je vais aussitôt mêler le filtre à de l'hypocras que vous lui offrirez à boire. L'hypocras, qui est chargé en épices et sombre de couleur, dissimulera bien la poudre. Mais je vous conseille, madame, de vous remettre au lit et de feindre d'être malade pour avoir prétexte à ne pas boire vous-même, car il ne faudrait pas que vous alliez absorber ce breuvage et vous trouver prise d'amour pour madame votre fille.
C'est en tout cas une bonne idée que de le recevoir couché, répondit la comtesse d'Artois, et de me prétendre en mauvais point. On peut dire les choses plus droitement.
Elle fit enlever la table, demanda une robe de nuit et se remit au lit. Puis elle appela auprès d'elle son chancelier Thierry d'Irson, ainsi que son cousin Germain Henri de Sully qui logeait chez elle. Et elle travailla en leur compagnie aux affaires de son comté.
Un peu plus tard, on annonça le comte de Poitiers. Il entra, vêtu de sombre comme à l'ordinaire, ses jambes de héron chaussées de bottes souples, et la tête sous le chaperon à crête, un peu penchée au bout de son long corps. « Ah, mon beau-fils !» s'écria Mao, comme si elle avait vu apparaître le sauveur. « Que je suis aise de votre venue ! Savez-vous à quoi je m'occupais ? Je me faisais lire l'état de mes biens pour dicter mes volontés dernières. J'ai souffert la plus mauvaise nuit du monde, toute torturée aux entrailles par l'angoisse de la mort, et j'avais grand crainte de passer outre sans vous avoir ouvert ma pensée pour ce que je vous aime en dépit de tout, d'un cœur de mère. » Afin de conjurer les mensonges qu'elle venait de proférer, elle tira le petit reliquaire en forme de médaillon qu'elle portait sur la poitrine au bout d'une chaîne d'or et le baisa dévotement. « Que Saint Druon me protège !» dit-elle en reglissant le médaillon dans son vaste corsage. Bien installée parmi ses coussins de brocart, les joues rebondies et colorées, l'épaule large, le bras charnu, Mao offrait les signes d'une robuste santé. Tout au plus aurait-elle eu besoin, peut-être, de se faire tirer une ou deux pintes de sang. « Allons, elle va me donner la comédie, » pensa Philippe de Poitiers. De nature comme d'apparence, elle ressemble trait pour trait à Robert. Ils se haïssent d'être trop pareils. Je gagerais qu'elle va me parler de lui. Il ne se trompait pas. Mao se mit aussitôt à vituperer ce mauvais neveu, ses manœuvres, ses intrigues et la ligue qu'il animait contre elle. Pour Mao, comme pour Robert, toutes les affaires du monde passaient par le comté d'Artois qu'ils se disputaient depuis 13 ans. Leurs pensées, leurs démarches, leurs amitiés, leurs alliances, leurs amours même, se rattachaient toujours de quelque façon à cette lutte. L'un n'entrait dans un clan que parce que l'autre appartenait au clan adverse. Robert ne soutenait une ordonnance royale que parce que Mao la désapprouvait. Mao était d'avance hostile à Clémence de Hongrie parce que Robert avait donné appui au mariage. Cette haine qui excluait tout accord, toute transaction, dépassait son objet. Et l'on pouvait se demander s'il n'y avait pas, entre la géante et le géant, une sorte de passion à rebours, inconnue d'eux-mêmes, et qui se fût mieux apaisée dans l'inceste que dans la guerre. « Toutes ces méchancetés avancent mon trépas, » dit Mao. « J'ai su que mes vassaux, assemblés par Robert, ont prononcé serment contre moi. C'est cela qui m'a remué les humeurs et mise dans l'état où je suis. »«
Ils ont juré ma mort, monseigneur, » dit Thierry d'Hirson.
Philippe de Poitiers se tourna vers le chanoine chancelier et vit que c'était lui, et non Mao, qui était malade, de peur. « J'allais monter à l'ost pour remettre de l'ordre dans ma bannière, » reprit Mao. « J'avais fait sortir, comme vous voyez, mes atours de guerre. » Elle désigna vers un coin de la pièce un imposant mannequin revêtu d'une longue robe en maille d'acier et d'une cotte de soie brodée aux armes d'Artois. À côté étaient préparés le haume et les gantelets. Mao soupira. Elle regrettait l'occasion perdue. Elle aimait bien se vêtir en chevalier, comme un homme. Et puis, j'ai appris la fin de cette glorieuse chevauchée qui coûte au royaume l'argent et l'honneur. Ah, l'on peut dire que votre pauvre frère n'est guère fortuné et que tout ce qu'il entreprend va à la traverse. En vérité, je vous le dis comme je le crois, vous auriez fait un bien meilleur roi que lui. Et c'est grande pitié pour tous, mon beau-fils, que vous soyez né le second. Votre père, que Dieu l'ait en grâce, en soupirait souvent. Depuis le scandale de la tour de Nesle et la détention de Jeanne à Dourdan, le comte de Poitiers n'avait revu sa belle-mère que dans les cérémonies publiques, lors des funérailles de Philippe le Bel, par exemple, ou bien aux séances de la Chambre des Pairs, mais jamais en privé. Il se marquait de la froideur. Pour une reprise de contact, l'ouverture était grosse. Mao, dans le compliment, ne prenait pas la petite mesure. Elle invita son gendre à s'asseoir plus près de son lit. Hirson et Sully se retirèrent vers la porte. « Mais non, mes bons amis, vous n'êtes point de trop. Vous savez bien que je n'ai pas de secret pour vous, » leur dit-elle. En même temps, elle leur faisait signe d'un mouvement de doigt de sortir de la pièce. Or, il était peu habituel chez les grands seigneurs de recevoir un visiteur tête à tête. Leurs appartements étaient constamment occupés ou traversés par des parents, des familiers, des vassaux, des serviteurs. Les entretiens se déroulaient généralement au vu de tous, ou au moins en présence d'un gentilhomme de la chambre ou d'une dame de parage. D'où la nécessité de l'allusion du demi-mot. Lorsque les deux interlocuteurs principaux se retiraient dans une embrasure de fenêtre pour converser à voix basse, les gens de leur suite affectaient le détachement, mais se sentaient facilement ou vexés ou inquiets. Tout entretien à porte close prenait une allure de complot, et c'était bien l'allure que Mao voulait donner à son entretien avec le comte de Poitiers, ne fût-ce que pour le compromettre un peu et le faire mieux entrer dans son jeu. Aussitôt qu'ils furent seuls, elle lui demanda « Quels sont vos sentiments pour ma fille Jeanne ?» Comme il hésitait à répondre, elle entama sa plaidoirie. Certes, Jeanne de Bourgogne avait eu des torts, de grands torts même, en n'avertissant pas son mari des intrigues d'alcôve qui déshonoraient la maison royale, et en se faisant complice, volontairement, involontairement, qui pouvait le dire, du scandale. Mais elle-même n'avait point péché de corps ni trahi le mariage. Tout le monde le reconnaissait, et le roi Philippe lui-même, pourtant si courroucé, en était convenu, puisqu'il avait assigné à Jeanne une résidence particulière, sans jamais signifier que cette réclusion fût à vie. « Je sais, j'étais au conseil de Maubuisson, » dit le comte de Poitiers, qui souhaitait couper à ses souvenirs amers. « Et comment Jeanne aurait-elle pu vous trahir, Philippe ? Elle vous aime, elle n'aime que vous. Qu'il vous suffise de vous rappeler ses cris lorsqu'on l'emmena dans son chariot noir. Dites à Monseigneur Philippe que je suis innocente. J'en ai encore le cœur fendu, moi, sa mère, d'avoir dû assister à cela. Et depuis 15 mois que la voilà à Dourdan, je le sais par son confesseur, jamais un mot contre vous, rien que paroles d'amour et des prières à Dieu pour regagner votre cœur. Je vous assure que vous avez là une femme plus fidèle, plus dévouée que beaucoup, et qui a été durement châtiée. » Elle rejetait toutes les fautes, toutes les culpabilités sur Marguerite de Bourgogne. Et cela avec d'autant plus de tranquillité que Marguerite, premièrement, n'appartenait pas à sa proche famille, et secondement, n'existait plus. C'était Marguerite la pécheresse, la dévergondée, la catin. C'était Marguerite qui avait entraîné Blanche, pauvre enfant inconsciente, qui avait abusé l'amitié de Jeanne. D'ailleurs, à Marguerite elle-même, ne devait-on pas concéder quelques excuses ? L'espoir d'être reine de Navarre ne suffit pas à tout, et quelle femme ne se fût attristée du mari qu'on lui avait donné ? En définitive, Mao tenait le hutin pour le premier responsable de son infortune. « Il paraît que votre frère n'est pas très bien membré. » On m'a toujours assuré, au contraire, qu'il était normal de ce côté-là, encore qu'un peu effarouché ou violent sur la chose, mais nullement empêché, répondit le comte de Poitiers. « Vous n'avez point, comme moi, les confidences des femmes, » répliqua Mao. Elle se redressa, massive, sur ses oreillers, regarda son gendre droit dans les yeux. « Philippe, parlons clair, » dit-elle. « Croyez-vous que l'héritière, la petite Jeanne de Navarre, soit de lui ou du galant de Marguerite ?» Philippe de Poitiers se frotta un instant le menton. « Mon oncle Charles de Valois affirme qu'elle est bâtarde, » répondit-il, « et Louis lui-même, par la façon qu'il a d'éloigner cet enfant, semble le confirmer. D'autres, comme mon oncle d'Evreux, ou bien sûr le duc de Bourgogne, la tiennent pour légitime. » S'il arrivait malheur à Louis, qui n'est pas bien fort de santé, vous êtes dans le moment le second en ligne de succession. Mais si la petite Jeanne est déclarée bâtarde, comme nous pouvons penser qu'elle l'est, alors vous devenez le premier, et c'est à vous d'être roi. Vous êtes fait pour régner, Philippe. La nouvelle épouse qui lui arrive de Naples fournira peut-être à mon frère un héritier. S'il est capable de procréer, ou si Dieu lui en laisse le temps, dit Mao en appuyant bien sur ces derniers mots. À ce moment, Béatrice d'Hirson entra, portant un plateau chargé d'une aiguière ciselée, de gobelets de vermeil et d'une coupe emplie de dragées. Mao eut un mouvement d'impatience. L'interruption était vraiment peu opportune. Mais sans se troubler ni se hâter, la demoiselle de Parage emplit les gobelets et présenta au comte de Poitiers Hippocras et Dragée. Mao étendit machinalement la main vers un gobelet. Béatrice la regarda de telle façon qu'elle se reprit, disant « Non, je suis trop malade. Tout me tourne sur le cœur. » Poitiers réfléchissait. Il n'avait pas manqué lui-même, durant les mois récents, de penser à l'éventualité de la succession. En clair, Mao lui proposait alliance et soutien pour le cas où Louis X viendrait à disparaître. Béatrice d'Hirson était ressortie.
Ah, Philippe, sauvez ma fille Jeanne de la mort, je vous en conjure, s'écria soudain Mao, pathétique. Elle n'a point mérité tel sort.
Mais qui donc la menace ? Demanda Poitiers.
Robert, toujours lui, répondit-elle. J'ai appris qu'il était de connivence avec votre sœur Isabelle pour machiner la perte de mes filles et de Marguerite. Et j'ai vu ce grand gueux, à la place où vous êtes, venir m'annoncer lui-même mon malheur, la mine tout apitoyée. Et moi, je l'ai cru sincère. Il se pourléchait, le putois. Mais cela ne lui portera pas bonheur, comme cela n'a pas porté bonheur à Isabelle. Son mari a reperdu l'Écosse et continue de se vautrer dans le vice avec des portefaix.
Elle s'arrêta un instant, parce que Poitiers approchait le gobelet de ses yeux myopes pour en examiner la ciselure. Puis elle enchaîna.
Mais mon Satan de Robert a fait mieux depuis. Savez-vous que le jour où Marguerite fut trouvée morte, Robert était entré à Château-Gaillard au petit matin ?
Vraiment, dit Poitiers sans montrer une surprise extrême. Il avait lui aussi ses informations. Il but une gorgée et parut apprécier le breuvage.
Blanche, enfermée dans la même tour, a tout entendu. La pauvre enfant, depuis, est comme folle. Elle m'a fait parvenir l'autre jour un message. Entendez-moi, Philippe. Il va les tuer l'une après l'autre. Son jeu est clair. Robert, à présent, peut agir à sa guise et tout obtenir du roi. Ils sont complices du même meurtre. Il suffit que Robert parle pour que Louis approuve. Maintenant, il va s'attaquer à ma descendance. Je suis seule, veuve, avec un fils trop jeune encore pour qu'il me puisse fournir appui et pour la vie duquel je tremble autant que pour la vie de mes filles. Tant de douleurs et de craintes ne peuvent-elles pas faire mourir une femme avant l'âge ?
À nouveau, elle toucha sa relique pectorale.
Dieu m'est témoin que je ne voudrais pas trépasser en laissant mes enfants livrés à ce chacal. De grâce, reprenez votre épouse auprès de vous pour la protéger et montrez du même coup que je ne suis point sans allié. Car s'il arrivait que Jeanne fût enlevée à la vie ou bien resta recluse et que l'Artois me fût ôté comme si fort on s'y emploie, alors je serais obligé de demander retour pour mon fils du Palatinat de Bourgogne qui était la dot de Jeanne.
Poitiers ne put qu'admirer l'adresse avec laquelle sa belle-mère avait planté sa dernière lance. Ainsi, le marché était nettement proposé. Ou bien vous reprenez Jeanne et je vous pousse au trône s'il devient vacant, afin que ma fille soit reine de France. Ou bien vous refusez la réconciliation conjugale, mais alors je renverse mes positions et négocie la reprise du comté de Bourgogne contre l'abandon de l'Artois. Or, la Bourgogne-Comté constituait non seulement une immense possession, mais aussi, par sa situation de palatinat, un possible accès à la couronne élective de l'Empire d'Allemagne. Poitiers contempla un instant Mao, monumental sous les grandes courtines de brocart drapées autour de son lit. Elle est fourbe comme le renard, obstinée comme le sanglier. Elle a sans doute du sang sur les mains, mais je ne pourrai jamais me défendre d'avoir pour elle de l'amitié. Dans sa violence comme dans son mensonge, il y a toujours une pointe de naïveté. Pour cacher le sourire qui lui venait aux lèvres, il but au gobelet de vermeil. Il ne promit rien, ne conclut rien, car il était de nature réfléchie et ne considérait pas qu'il y eût urgence à décider. Mais, à tout le moins, il voyait déjà le moyen de contrebalancer au conseil des pairs l'influence de Valois qu'il tenait pour funeste. Il but une dernière gorgée et dit « Nous parlerons de tout ceci au sacre, où nous allons nous revoir promptement, ma mère. » Et par ce « ma mère » qu'il employait pour la première fois depuis 15 mois, Mao comprit qu'elle avait gagné. Aussitôt après le départ de Philippe, Béatrice entra et examina le gobelet. « Il l'a vidé presque jusqu'au fond, » dit-elle avec satisfaction. « Vous verrez, madame, que monseigneur de Poitiers va bientôt aller à Dourdan. »
Je vois surtout, répondit Mao, qu'il nous ferait un fort bon roi si nous perdions le nôtre.